Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le MPRRI a inauguré le président et le vice-président pour la période 2024-2022. L'armée israélienne continue d'encercler et de terroriser l'hôpital indonésien à Gaza. Le ministre russe des Affaires étrangères affirme que les remarques de Biden sur le nucléaire sont liées à l'élection présidentielle américaine de 2024. Une explosion se produit au consulat chinois au Myanmar. La Corée du Nord affirme avoir retrouvé un drone militaire sud-coréen et prépare une déclaration de guerre. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, de la République d'Indonésie a inauguré dimanche le président et le vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2024-2029, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, au bâtiment Nusantara Complexe du Parlement Senayan à Jakarta. L'investiture présidentielle a été présidée directement par le président du MPRRI Ahmad Muzani. Dans un discours d'ouverture, Muzani a déclaré qu'il pensait que cet événement d'inauguration avait rempli le quorum et avait été vu par tous les Indonésiens, tant au pays qu'à l'étranger. Lors de la séance plénière du MPRRI, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka a prêté serment en tant que président et vice-président de la République d'Indonésie pour le mandat 2024-2029.
Demi Allah, saya bersumpah.
Par Allah, je le jure, je remplirai les obligations du président de la République d'Indonésie aussi bien et équitablement que possible, respecter la Constitution et appliquer toutes les lois et réglementations, aussi droit que possible et dévoué à la patrie et à la nation. Outre Prabowo Subianto, le vice-président Gibran Rakabuming Raka a prêté serment.
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban wakil presiden.
Je jure que je remplirai les obligations de vice-président de la République d'Indonésie aussi bien que possible et équitablement, respecter la Constitution et appliquer toutes les lois et réglementations aussi directement que possible et servir notre patrie et notre nation. Après cela, Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka ont signé le procès-verbal d'inauguration. Au total, 732 membres du MPRRI ont assisté au cortège de prestations de serment. La séance plénière du MPRRI a également réuni des personnalités nationales et des dirigeants de partis politiques. En outre, l'investiture du président et du vice-président s'est également déroulée en présence de représentants de pays amis, dont le premier ministre du Timor-Leste, Sanana Gusmao, le premier ministre cambodgien, Hun Manet, le vice-président chinois, Han Zheng, l'envoyé spécial du président des Émirats Arabes Unis, Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, et le sultan de Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah. Les forces de défense israéliennes, ou FDI, continuent de mener des agressions à Gaza du Nord en Palestine. Les FDI ont ciblé toutes les installations publiques locales, y compris les hôpitaux. L'hôpital indonésien de Beit Lahia, Gaza du Nord, a également été pris pour cible. Un certain nombre de militaires de FDI, équipés de chars et d'armes, ont même continué à encercler l'établissement de santé construit avec l'argent du peuple indonésien. Le directeur de l'hôpital indonésien Marwan Al-Sultan a déclaré que les attaques des troupes israéliennes avaient provoqué une crise d'eau potable et de nourriture ainsi qu'un approvisionnement limité en électricité. Marwan Al-Sultan, dans une déclaration écrite reçue par La Repubblica à Jakarta, samedi a déclaré que les troupes israéliennes encerclaient désormais l'hôpital indonésien où se trouvent de nombreux patients, notamment des nouveau-nés, des jeunes enfants, des enfants et des personnes âgées. Le ministère palestinien de la Santé a lancé un appel pour mettre fin à l'escalade dans la bande de Gaza, en particulier à Gaza du Nord. Il a appelé l'armée israélienne à ne pas prendre pour cible les hôpitaux et à ne pas y entraver le travail médical. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que les remarques du président américain Joe Biden sur la volonté de Washington de négocier des réductions inconditionnelles des armes nucléaires avec la Russie étaient liées à l'élection présidentielle américaine de 2024. Lavrov a déclaré au journal russe Argumenti Effecti, a dit que les remarques du président américain visaient à récolter des points électoraux pour la candidate du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Plus tôt lundi, Biden a déclaré que le monde devait travailler à l'élimination de tous les arsenaux nucléaires, mais n'a pas mentionné le montant des dépenses du gouvernement américain pour développer et renforcer sa propre triade nucléaire. L'administration américaine actuelle a constamment exprimé sa volonté de prolonger le traité russo-américain de réduction des armements stratégiques ou New START qui doit expirer en février 2026. Une explosion s'est produite au bâtiment du consulat chinois à la ville de Mandalay, au Myanmar, vendredi. Selon les médias locaux, cet incident n'a fait aucun mort ni blessé. Cité par l'agence de presse AFP, l'explosion s'est produite vers 19h heure locale. La junte de Myanmar a accusé samedi soir les terroristes d'être le cerveau derrière l'explosion. Les médias de Irrawaddy ont rapporté qu'une grenade avait été lancée sur le complexe qui est habituellement gardé par les forces de sécurité de Myanmar. L'explosion survenue au consulat chinois fait l'objet d'une enquête de la part du gouvernement de la junte de Myanmar et des responsables du consulat. La Corée du Nord a affirmé samedi avoir retrouvé les restes d'un drone ou d'un drone militaire sud-coréen écrasé. La Corée du Nord pense que le drone était en mission de propagande. Cet incident est la dernière confrontation entre les deux pays impliquant des objets volants transfrontaliers. L'agence de presse gouvernementale nord-coréenne KCNA a révélé que le drone était très probablement un avion qui distribuait des tracts au centre de la ville de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen a refusé de dire si le drone était piloté par lui ou non. La Corée du Sud a déclaré que commenter les affirmations de la Corée du Nord ne ferait que l'exposer à la tromperie ou aux tactiques de Pyongyang. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie envoie de l'aide au Soudan, au Yémen et à la Palestine ». Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, a envoyé 28 333 tonnes d'aide humanitaire aux populations du Soudan, du Yémen et de la Palestine en avion Garuda Indonesia Airlines. Le président-directeur de Garuda Indonesia, Irfania Putra, a déclaré mardi que son parti effectuait des vols humanitaires transportant 28 333 tonnes d'aide humanitaire sous forme de besoins logistiques, notamment des médicaments, des kits d'hygiène, de la nourriture pour bébés et des tentes de réfugiés. Il a expliqué que le vol humanitaire a décollé de la piste d'atterrissage Halim Perdana Kusuma à Jakarta mardi, tôt le matin à minuit, hors l'Indonésie occidentale, à destination de l'aéroport international de Fujairah aux Émirats arabes unis. Le vol utilise une flotte d'Airbus A330-300 portant le numéro de vol JA-7720 et devrait arriver à 5h15 heure locale pour ensuite poursuivre la distribution vers diverses zones cibles. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a révélé que le nombre de morts à Gaza, en Palestine, a été enregistré à plus de 42 000 personnes. Au Yémen, 260 000 personnes ont été victimes des inondations et 8,1 millions de Soudanais ont été déplacés à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a déclaré que le gouvernement indonésien préparait cette aide pour atténuer l'impact des citoyens des pays amis confrontés aux crises humanitaires dues aux catastrophes naturelles et aux conditions géopolitiques de la région. Muhajir espère que le fardeau des victimes de catastrophes et de crises humanitaires dans les pays amis pourra être allégé grâce à l'aide apportée par Garuda Indonesia. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, a confirmé que l'aide humanitaire du gouvernement de la République d'Indonésie pour les victimes de la catastrophe est arrivée en toute sécurité dans la ville d'Aden, au Yémen, mardi matin, heure locale. Le chef du BNPB, Suharyanto, dans un communiqué reçu mardi soir à Jakarta, a déclaré qu'ils avaient été bien accueillis par le ministre de l'administration locale de la République du Yémen, Hussein Abdul Rahman Al-Ahbari, et son équipe à leur arrivée à l'aéroport international d'Aden. Selon Suharyanto, généralement, ce vol de 8 heures depuis Jakarta lundi s'est bien déroulé. Bien qu'auparavant, il est transité par Fujairah aux Émirats Arabes Unis et est dû poursuivre le voyage de 3 heures jusqu'à Aden. À leur arrivée à Aden, des articles d'aide humanitaire du gouvernement indonésien pesant au total 67,5 tonnes ont été immédiatement déchargés du coffre de l'avion de Garuda Indonesia et immédiatement remis symboliquement aux autorités locales. L'aide comprend 19 articles, dont des centaines de tentes familiales pour les réfugiés, des bâches, des matelas, des couvertures, de l'éclairage, des aliments prêts à consommer, des colis alimentaires de base, des colis alimentaires supplémentaires pour les tout-petits, des colis alimentaires supplémentaires pour les femmes enceintes, des jerrycans pliants, toilettes portables, matériel de nettoyage, vêtements pour femmes adultes, vêtements pour hommes adultes, produits de première nécessité pour femmes, vêtements pour enfants et ustensiles de cuisine. À cette occasion, le chef du BNPB a exprimé la profonde préoccupation et la tristesse du président Joko Widodo face à la catastrophe qui a touché 12 000 familles au Yémen. Suharyanto a révélé que cette aide n'était pas due tout liée à la politique intérieure du Yémen, mais était uniquement au nom de l'humanité pour alléger le fardeau des souffrances des habitants en difficulté après avoir été touchés par les inondations catastrophiques il y a quelque temps. Le gouvernement et tous les citoyens indonésiens, a-t-il déclaré, espèrent également que les relations avec les pays du Moyen-Orient pourront renforcer le sentiment de solidarité pour un avenir meilleur. C'est tout la mise au point de la semaine. Thank you. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 20 octobre. On commence par le 20 octobre 1991, le tremblement de terre à Uttarkashi. Le 20 octobre 1991, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 s'est produit dans les régions d'Uttarkashi et de Garhwal, dans l'état indien de l'Uttarakhand. Le tremblement de terre a fait au moins 2000 morts et plus de 1800 personnes ont été blessées. Plus de 42 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. Certains dégâts se sont produits à Chandigarh et à New Delhi. Le séisme a également été ressenti au nord de l'Inde, Népal de l'Ouest et Pakistan du Nord-Est. Le 20 octobre 2010, la Journée mondiale de la statistique a été célébrée pour la première fois. La Journée mondiale de la statistique a été célébrée pour la première fois le 20 octobre 2010 partout dans le monde. La Journée mondiale de la statistique est célébrée tous les 5 ans. La Commission de statistique des Nations Unies a proclamé la Journée mondiale de la statistique le 20 octobre 2010. Depuis 2010, 103 pays célèbrent la Journée nationale de la statistique, dont 51 pays africains qui célèbrent conjointement la Journée africaine de la statistique chaque année le 18 novembre. Le 20 octobre 2014, l'inauguration du 7e président de l'Indonésie. Joko Widodo et Muhammad Yusuf Kalla ont officiellement assumé les fonctions de président et de vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2014 à 2019. Joko Widodo et Yusuf Kalla ont été les vainqueurs de l'élection présidentielle 2014. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée au bâtiment MPR vers 10h du matin. Après avoir prêté serment, le président Joko Widodo a prononcé son premier discours en tant que chef de l'État. Dans son discours, il espérait que le peuple indonésien pourrait s'unir après avoir traversé la compétition intense lors de l'élection présidentielle de 2014. Le président Joko Widodo a également exprimé sa vision et sa mission de faire de l'Indonésie l'axe maritime du monde.
Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat.
Nous voulons également être présents parmi les nations avec honneur, dignité et respect de soi. Nous voulons devenir une nation capable de développer sa propre civilisation, une grande nation créative capable de contribuer à la civilisation mondiale. Nous devons travailler aussi dur que possible pour restaurer l'Indonésie en tant que pays maritime. Les océans, les mers, les détroits et les baies sont l'avenir de notre civilisation. Le 20 octobre 2019, Joko Widodo a été reconduit dans ses fonctions de président de la République d'Indonésie pour la période 2019 à 2024 avec Ma'ruf Amin comme vice-président. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3,325 kHz et sur le site web de www.voinews.it. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulé « L'Indonésie dispose officiellement d'un conseil unique de traitement d'arbitrage sportif ». L'Indonésie a officiellement le Conseil indonésien d'arbitrage sportif, ou en indonésien Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, ou abrégé en BAKI, comme seule institution dont le rôle est de résoudre les différends dans le secteur sportif du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a déclaré que la présence de BAKI était un moment historique pour le sport indonésien, en particulier pour l'avenir du règlement des différends sportifs. Lors d'une conférence de presse à Jakarta vendredi, le ministre Dito Aryo Tejo a déclaré que la présence de BAKI était un pas en avant, non seulement pour remplir le mandat de la loi, mais aussi pour souligner l'engagement en faveur de la sécurité juridique dans le monde du sport. Il a déclaré que bien que la formation du BAKI ait été réalisée à la fin de son mandat de ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement du président Joko Widodo pour la période 2019 à 2024, son parti a néanmoins salué la formation du BAKI en tant qu'unique organe d'arbitrage sportif en Indonésie. La présence de cet organisme est en accord entre tous les éléments sportifs en Indonésie tels que KONI, KOI, NPCI, BAURI, BAKI, les organisations sportives fonctionnelles, les organisations sportives professionnelles, après un long dialogue depuis 2023. Le ministre Dito Aryo Tejo a souligné que le plus grand défi à l'unification des institutions d'arbitrage réside dans les facteurs historiques et les caractéristiques des cas traités. Auparavant, a-t-il dit, il existait deux forums de résolution des différends sportifs, à savoir le Conseil indonésien d'arbitrage sportif ou en indonésien Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ou abrégé en BAURI et BAKI, mais maintenant c'est uniquement par l'intermédiaire de BAKI. Dito a déclaré que la présence de BAKI a créé un forum de résolution des différends sportifs efficace et équitable. Par conséquent, BAKI accueillera également les administrateurs BAURI dans une gestion adaptée aux aspects de professionnalisme et de capacité des cadres BAKI. Il a ajouté que BAKI devait jouer un rôle stratégique dans le progrès du sport national car il est très dépendant de ses infrastructures de soutien, y compris de la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. Pendant ce temps, le président de BAKI, Mohamed Idwan Ghani, a déclaré qu'après avoir été nommé seul organe d'arbitrage sportif, BAKI s'acquitterait pleinement de ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. BAKI a déclaré continuerait de donner la priorité à la sécurité juridique, à l'intégrité et à l'indépendance, ainsi qu'au principe d'accès à la justice et de procédures rapides à faible coût. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Kita berdua saling berdua. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Lampung est une province située à la pointe sud de l'île de Sumatra. Lampung, l'une des régions de Sumatra, propose également une variété de spécialités culinaires délicieuses. L'une des collations typiques de Lampung s'appelle gegudu. Chers auditeurs, gegudu est classé comme une collation populaire au marché. Cette collation est très facile à trouver sur les différents marchés traditionnels de Lampung. Le gegudu, qui peut également être considéré comme une banane frite typique de Lampung, est également servi comme plat lors de rassemblements ou de grands événements à grignoter ensemble. Quand tout est détente, ce gegudu est très approprié pour être dégusté avec un verre de thé ou de café chaud. Gegudu a un goût sucré car il est fabriqué à partir de bananes kepok parfaitement mûres. Pour faire du gegudu, ce n'est pas difficile. Les bananes kepok sont écrasées, puis ajoutées à la farine de blé, puis agitées jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez des feuilles de pandan ou de l'eau de merlan pour ajouter de l'arôme. Avec les modifications culinaires apportées à ce jour, le gegudu présente de nombreuses variations de goût et est également souvent servi avec diverses garnitures telles que du lait concentré sucré, des vermicelles mais aussi des confitures aux parfums variés avant d'être ensuite frit et servi en accompagnement d'un café ou un plat à certaines occasions. Les auditeurs de Voice of Indonesia, si vous êtes dans la province de Lampung en Indonésie, essayez de goûter le gegudu, une collation traditionnelle typique de Lampung, accompagnée d'une tasse de thé ou de café. Je suis sûre que votre après-midi sera encore plus mémorable.
Waktu telah lewat. ada luka yang tak bisa terpejam. Mengingatmu sedih hatiku. Pernah kita duduk menatap bintang, rencana indah tentang masa depan. Hancur sudah saat kau pergi.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur dont le titre est un professeur de UI obtient un brevet sur les cellules souches libres de Seno en Angleterre. Rizal Aziz, maître de conférence au programme d'études en génie biomédical de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie, ou UI, a réussi à obtenir un brevet en Angleterre pour sa découverte innovante, à savoir des milieux de culture de cellules souches sans sénon. Cette innovation, développée depuis 2020 avec le professeur Nick Hannan de l'Université de Nottingham, devrait pouvoir révolutionner la recherche et la thérapie sur les cellules souches dans le monde entier, notamment dans les applications cliniques. Rizal a développé l'innovation en matière de cellules souches tout en poursuivant ses études doctorales à l'Université de Nottingham en Angleterre d'octobre 2020 à août 2024. Ce brevet est un pas en avant qui souligne l'importance de la collaboration et de l'innovation dans la création de solutions de santé non seulement efficaces, mais également abordables pour la société. Jusqu'à présent, la thérapie par cellules souches était limitée par les coûts et les risques élevés associés à l'utilisation de milieux de culture d'origine animale. L'innovation sensénaux développée par Isel élimine ces risques, rendant la thérapie plus sûre et plus abordable. Cette innovation a suscité l'intérêt de cette société internationale de biotechnologie du Royaume-Uni, du Canada et d'Allemagne qui souhaite produire cette technologie à l'échelle mondiale. Le succès de cette technologie sensénaux positionne l'Indonésie comme un acteur clé dans le domaine en croissance rapide de la médecine régénérative. La réalisation de Rizal est une réalisation monumentale pour la communauté scientifique et médicale. Cette technologie de cellules souches sensénaux offre divers avantages, notamment l'absence de composants d'origine animale, réduisant ainsi le risque de contamination par des agents pathogènes ou sensénaux, utiliser des compositions bien définies qui fournissent des résultats de traitement cohérents, peut être utilisé pour différents types de cellules, des cellules hépatiques aux cellules cardiaques, dans diverses applications médicales et peut être produit à grande échelle à un coût inférieur à celui de produits similaires, ce qui rend la thérapie par cellules souches plus accessible. Cette découverte a le potentiel d'ouvrir la voie à une application plus efficace et à grande échelle de la thérapie par cellules souches dans le monde entier, ainsi que de bénéficier à des millions de personnes ayant besoin d'un traitement médical avancé.
Meski rasanya tak biasa.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.poinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une chanson de Mutia Rahmi. Mutia Rahmi, ou qui s'appelle familièrement Tia, est active dans le monde de la musique depuis son enfance. Elle a aussi une passion pour l'écriture qui s'exprime désormais dans ses chansons pleines de sens. Le 17 octobre 2024, elle a sorti son dernier single intitulé Menanti Hatimu Patah Lagi. Cette chanson présente une histoire d'amour compliquée, très pertinente pour beaucoup de gens. Cette chanson raconte de quelqu'un qui se rend compte que l'amour qu'elle vit n'est pas bien pour lui. La personne qu'elle aime n'apparaît que lorsque son cœur est blessé, ce qui ne fait que créer une douleur plus profonde. Cependant, au lieu de partir, elle a choisi d'attendre, espérant que l'amour reviendrait. Bon, chers auditeurs, voici Mutia Rahmi, dont le titre est Menanti Hatimu Patah Lagi. Bonne écoute!
Mesin waktu bawaku padamu. Kisah lama yang berubah pilu. Buatku mengerti arti tatapan itu. Hangatmu antar harap untukku.
Punggung hanya
Voice of Indonesia.
من صنعك لن أتحطى ما بالبسيط سأتحمل أخطائي حتى أخطئ في الصحيح Save all your tears You don't wanna waste them on me I'm not gonna be just like them This is just the way that I am Head in clouds I do not fit into the crowd maybe it's all making perfect sense cause this is who I am who I am like them this is just the way that I am head in the clouds I do not fit into the crowd maybe it's all making perfect sense cause this is who I am who I am
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.